Nous parcourons notre parcours, nous continuons notre parcours dans l'Exode et nous en sommes au chapitre 32. Pour ceux qui ont cette version, c'est à la page 63. Je ne vais pas lire le texte, je vais souvent en lire des petits bouts, hein, parce que le texte est un petit peu long. Alors suivez, je vais essayer de le suivre d'assez proche, donc vous pouvez suivre le texte au fur et à mesure que je le raconte. C'était une magnifique journée, une journée vraiment exceptionnelle. Les mariés étaient beaux, la cérémonie était émouvante, tout était absolument parfait. Tout était parfait. Jusqu'à ce que, sur le parvis de la mairie, la jeune épouse quitte son alliance, la jette et crache au visage de son mari. Elle part rapidement au bras de l'un des témoins. Alors je vous rassure, ce n'est pas une histoire vraie. C'est une illustration que j'ai entendue, mais cette illustration décrit assez bien le passage qui nous concerne aujourd'hui. L'alliance vient juste d'être scellée entre Dieu et son peuple. L'engagement a été pris par le peuple. Oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le cadre a été posé. Pendant des chapitres, Dieu détaille comment il va venir habiter au milieu de son peuple. Teinture après teinture. Planche après planche, agrafe après agrafe, meuble après meuble. Il détaille tout cela avec énormément de patience. 40 jours où il explique tout ça. Les noces sont prêtes. Et voici que la jeune épouse lui crache au visage. Dans Exode 3, le peuple crie. Le peuple crie parce qu'il est esclave. Le peuple crie parce qu'il a besoin d'être délivré. Et aujourd'hui, le peuple crie encore. Mais cette fois, ce sont des chants. Et nous verrons que Dieu envoie à nouveau Moïse parce que son peuple est à nouveau esclave. Esclave de son péché. Si nous regardons dans Exode 32, à partir du verset 1, nous voyons que notre texte commence avec l'impatience du peuple. Il veut voir Dieu qui le conduit. Mais il est passé où, ce Moïse qui nous dirige? Alors il se tourne vers Aaron et puis ce grand prêtre, celui qui a la charge de représenter le peuple devant Dieu et celui de représenter Dieu devant le peuple, et il lui demande, allons, fais-nous des dieux. Des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron fabrique tel que le peuple lui demande. Et tout de suite, il s'exclame que demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, il y a une fête. Ils offrent des holocaustes, des sacrifices de communion. L'une des premières choses que nous devons comprendre face à ce texte, c'est que l'homme est un adorateur. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Et deux aspects majeurs de l'adoration sont l'obéissance et la dépendance. En fait, c'est ce que Adam et Ève ont brisé au jardin d'Éden. Et c'est ce que le peuple vient de briser en construisant ce veau d'or. Quand on lit ça, il y a une tentation chez nous, c'est d'être un peu condescendant. Enfin, c'est quand même des rustres, enfin pour pas dire des ploucs, quand même un peu primaire. Hein. Ces gens qui se font un veau d'or pour l'adorer. Tu fais une statue et puis tu te mets à genoux devant. On se dit quand même, on ferait pas ça, non. Deux remarques. La première, c'est que si ces gens-là avaient l'occasion aujourd'hui de rentrer dans nos vies et nos maisons, je pense que c'est eux qui seraient surpris par le nombre d'idoles qui nous entourent. La deuxième, c'est David Polisson qui fait remarquer que si dans l'Ancien Testament, le mot « idolâtrie » est très présent, il y a un glissement vers le Nouveau Testament. Et l'on va plutôt parler de désirs qui remplissent nos vies pour décrire finalement le même éloignement de Dieu. Au final, l'idolâtrie, c'est un problème de cœur. C'est une métaphore qui illustre la soif humaine de convoitises de toutes sortes, d'envie insatiable, de désirs ardents, d'exigences cupides. Et ça, ça n'a pas changé. Concrètement, ça veut dire que tout ce qui nous entoure peut devenir une idole. Quelque chose dans lequel nous mettons notre plaisir, quelque chose dans lequel nous mettons notre identité, notre valeur, quelque chose dans lequel nous trouvons notre sécurité. Nos enfants. Nous aimons nos enfants. C'est normal. Mais nos enfants peuvent si facilement devenir des idoles. Nous nous réalisons au travers d'eux. Nous réussissons notre vie au travers d'eux. Nous faisons au travers d'eux ce que nous n'avons pas pu faire. Eux pourraient le devenir. Nous trouvons notre fierté en eux, parce qu'ils réussissent, parce qu'ils sont sages, parce que nos amis, nos voisins sont admiratifs de l'intelligence, de la beauté, de la gentillesse de nos enfants. Et finalement, nos enfants peuvent devenir de belles idoles devant lesquelles nous nous mettons si facilement à genoux. Notre travail. Notre travail parce que le monde nous vend à longueur de journée que notre travail va nous accomplir. Et c'est vrai que nous pouvons avoir un travail que nous aimons. Personnellement, j'ai vraiment aimé ces 10 années que j'ai passées chez Schneider Electric. J'y ai trouvé aussi ma valeur. Être un chef de projet sur des grands projets de Schneider Electric dans un domaine qui me plaisait. Finalement, j'ai assez aimé ce que l'on faisait de moi. J'ai trouvé une valeur que je ne trouvais pas en Dieu. Le couple, la santé, la nature, le sport, la théologie, la technologie, les voitures, l'argent, la confiance en soi, etc. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais peuvent devenir dans nos vies des idoles. En fin de compte, l'idolâtrie se cache derrière chacun de nos péchés. Quand nous accordons un poids supérieur à quelque chose plutôt qu'à Dieu. Nous sommes tous idolâtres. Et en fait, c'est ce que souligne notre texte. Au verset 1, le peuple se rassemble autour d'Aaron et demande unanimement, il n'y a pas de voix discordante, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Au verset 3, tous les gens du peuple enlèvent leurs anneaux d'or. Le peuple entier est idolâtre. Et même celui qui aurait dû les garder fabrique l'idole. Mais une fois que j'ai compris que je suis idolâtre, la question c'est pourquoi finalement ? Pourquoi sommes-nous idolâtres ? Pourquoi succombons-nous jour après jour au péché ? Et une des raisons, c'est que nous croyons assez facilement que le péché est extérieur à nous, alors qu'il occupe notre cœur. Ils sortent d'Égypte. Ils fabriquent un veau d'or. Un veau d'or à l'image de ceux qu'ils ont connus en Égypte. Et nous le savons parce que Étienne nous le dit. Regardez dans le livre des Actes, chapitre 7, les versets 39 à 40. « Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » En fait, ils n'avaient jamais complètement abandonné les dieux de l'Égypte. Un commentateur écrit que, finalement, l'absence de Moïse donnait simplement aux Israélites l'occasion d'adorer ouvertement ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et il n'y avait plus personne pour les surveiller. Et finalement, ils donnent libre cours à leur cœur. Ils n'avaient même pas besoin de quelqu'un pour les tenter. Ils ont simplement produit à partir de la méchanceté de leur cœur une idole devant laquelle ils se sont inclinés. Il était plus facile pour Dieu de sortir le peuple d'Égypte que pour eux de faire sortir l'Égypte de leur cœur. Ils sont restés attachés à leurs idoles. Une de nos tendances est de lutter contre nos actions, mais ce que nos péchés révèlent, c'est la condition de nos cœurs, et notamment notre incapacité à faire confiance en Dieu pour notre bonheur. Je le dis quelquefois, nous avons foi en Dieu pour notre salut éternel, mais nous n'avons pas foi en lui pour aujourd'hui. Nous lui confions notre futur parce qu'il est loin, mais nous n'avons aucune confiance en lui pour aujourd'hui. Peut-être qu'une des raisons, c'est que nous croyons que la foi est basée sur l'expérience de ce que nous vivons avec Dieu. Et il semble clairement que le peuple vient de tordre le cou à cette idée. Dieu les a miraculeusement fait sortir d'Égypte, 10 plaies extraordinaires, d'une puissance inégalée. Personne n'avait jamais assisté à une telle démonstration de force de la part de Dieu. Même 40 ans plus tard, à Jéricho, les habitants tremblent au souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Dieu leur a donné de l'eau en plein désert à Mara, à Horeb. Dieu leur a donné à manger tous les jours. Et même pendant que Moïse était sur la montagne, ils ont continué à manger la manne. Dieu leur a donné la victoire sur les Amalécites. Ils ont vu que quand Moïse levait les bras, il prenait le dessus, tandis qu'il reculait quand il baissait les bras. Ils ont entendu Dieu venir sur le mont Sinaï et la montagne a tremblé. Ils ont entendu la voix de Dieu qui s'est adressée directement à eux. Pourtant, ils ne font ni confiance à Dieu, ni à son médiateur pour les conduire. Ils ne reconnaissent même pas en eux ceux qui les ont fait sortir d'Égypte. Et c'est cela qui les conduit à l'idolâtrie. Parce que Dieu est précisément en train de préparer un lieu de culte pour eux et qu'il vient de leur donner leur commandement. Il y a une ironie terrible. Un théologien commente : le veau n'a donné aucun commandement. Il n'a exigé aucune obéissance. Il n'y avait pas de colère, pas de justice, pas de sainteté à craindre. Il était sourd et muet. Au moins, c'était un Dieu qui n'allait pas empiéter sur leurs plaisirs. C'était une religion conçue pour les hommes, pratiquée par les hommes et finalement inutile pour les hommes. Le contraste entre le veau d'or et le véritable culte de Dieu était absolu. Ils n'avaient pas confiance en Dieu et ils se sont construits leur Dieu. Regardez. L'ironie, c'est que tout est contraire à ce que Dieu voulait. Les offrandes étaient volontaires pour la construction du tabernacle. Ici, elles sont exigées. Le tabernacle était un travail minutieux, 40 jours d'instruction. Ici, le veau d'or est construit en presque un instant. Tout le tabernacle montrait que Dieu était un Dieu saint, qu'il régnait sur son trône. Et ici, il n'est qu'un veau que l'on peut voir, toucher, emporter avec soi. Ce n'est plus lui qui dirige le peuple par sa parole, mais le peuple qui en fait ce qu'il en veut. Et ce que nous voyons au verset 6, c'est qu'après les holocaustes, après le désir du peuple qui voulait un Dieu pour les conduire dans le désert, le peuple s'assied. Il mange, il boit, et quand il se lève, c'est pour s'amuser. Alors c'est un peu un euphémisme, hein, mais ils ne se sont pas amusés avec du Scrabble. Derrière, on a toute la notion d'impudicité qui est derrière. Mais Mais si leur Dieu est sourd et aveugle et muet, Dieu lui les entend. Dieu les entend, il les voit et il parle. Il s'adresse à Moïse et puis il lui explique ce qui se passe au pied de la montagne. Il voit leur cœur. Il dit qu'ils sont réfractaires, rebelles. Et lui, il est en colère. Il expose assez froidement les faits à Moïse et il ajoute « Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Dieu est en colère. Nous l'avons dit, l'idolâtrie, c'est le refus de la dépendance et de l'obéissance. Et ce n'est pas juste certains, mais tout le peuple refuse Dieu, rejette Dieu. Et c'est pour ça que la menace au verset 9 est de tous les exterminer. Dieu promet de rester fidèle à son alliance au travers de Moïse qui ne s'est pas corrompu. Toute la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Dieu ne considère même plus ce peuple comme son peuple. Il le remet entre les mains de Moïse. En tant que médiateur, Moïse se tient entre Dieu et le peuple. Dieu l'interpelle, « Maintenant, laisse-moi faire !» Mais Moïse est là entre Dieu et le peuple. Une des choses que nous devons réaliser en lisant cette scène, c'est que le peuple ignore totalement ce qui se passe en haut. En fait, eux, ils devraient être morts à ce moment-là. L'homme qu'ils ont rejeté se tient entre Dieu et eux. L'homme qu'ils ont rejeté intercède pour eux. Ils sont vivants parce que l'homme qu'ils ont rejeté est entre Dieu et eux. L'alliance qui a été scellée entre Dieu et le peuple va perdurer. Le salut qui a été accompli lors de leur libération va continuer d'être valable pour eux, mais pas à cause de leur fidélité, à cause du fait que celui qu'ils ont rejeté prie pour eux. Notre salut ne repose jamais sur notre fidélité, mais sur la fidélité de celui qui nous a sauvés et intercède pour nous, présentant continuellement le sang de son sacrifice devant Dieu. D'ailleurs, regardez, comment est-ce que Moïse prie pour eux? Il dit principalement trois choses à Dieu. Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ce peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Hey, Dieu! Hey, c'est ton peuple! T'essayes de me le refiler, mais c'est ton peuple, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as fait sortir. C'est ton plan à toi de les sauver. C'est pas le mien, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui fais ce que tu veux. Il en appelle au plan de Dieu. Deuxième chose, dit Dieu, mais pourquoi est-ce que les Égyptiens diraient c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays? C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Et en fait, finalement, maintenant, il en appelle à la réputation de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les Égyptiens? Tu les as sauvés avec tout ça pour ça? Mais qu'est-ce que les païens vont penser de toi? Comment peux-tu rester un Dieu glorieux avec un tel échec? Troisième chose, souviens-toi. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit, jurant par toi-même, « Je rendrai votre dépendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, ils le posséderont pour toujours. » Et la dernière fois que nous avons vu cette expression, c'était dans Exode 2, 28. Dieu, il rappelle à Dieu ce souvenir que s'il les a tirés d'Égypte, c'est pour les racheter. C'est l'objectif de Dieu. Il s'appuie sur le plan de Dieu, il s'appuie sur la gloire de Dieu, il s'appuie sur la promesse de Dieu pour prier contre le peuple, pour le peuple. Vous ne voyez pas ce qui manque? Ce qui manque, c'est des excuses. Il faut que tu comprennes. 40 jours, c'est quand même un peu long, quoi. Imagine, ils étaient en bas de la montagne, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient un peu perdus. Enfin, Dieu comprend, 40 jours, 40! Enfin, si on était resté 3-4 jours, peut-être qu'ils auraient tenu, mais là, 40 jours, c'était un peu long, quoi. Puis on ne leur a pas dit combien on allait partir. Tu sais, ça ne doit pas être facile aussi, tu vois. Ils avaient des centaines de dieux en Égypte, maintenant, il n'y en a plus qu'un, et en plus, on ne le voit pas. Enfin, tu pourrais comprendre, peut-être. Peut-être qu'on aurait dû faire les choses différemment. On aurait peut-être dû mieux leur expliquer, finalement. En fait, non. En fait, non. Il n'y a rien dans la prière de Moïse qui puisse plaider en faveur du peuple. En fait, c'est un peu, imaginez, un procès où l'avocat se présente devant le juge pour défendre son client. Et voici ce qu'il lui dit. Eh, parlons pas de mon client. Nous savons de toute façon, vous et moi, qu'il est coupable. Il mérite la peine capitale, alors ne parlons pas de ce qu'il a fait, etc. Parlons plutôt de vous. Vous êtes le plus grand, le plus merveilleux juge qui n'ait jamais existé. Vous êtes un juge plein de compassion, un juge plein de grâce, un juge qui vise à ce que les gens s'en sortent à la fin. Ne parlons pas de lui, parlons de vous. Et c'est ce que Moïse fait. Il n'essaye pas de défendre son peuple en trouvant des excuses au peuple. Il essaye de défendre le peuple en parlant de Dieu, de sa grâce, de sa souveraineté, de sa bonté, de sa gloire. Souviens-toi que c'est toi qui les as choisis. Souviens-toi de ce que tu as promis. Souviens-toi de ton objectif. Souviens-toi de ta gloire. Sauve-les. Sauve-les pas à cause d'eux, mais à cause de toi et de ce que tu es. Et Dieu n'extermine pas le peuple. Dieu laisse Moïse descendre vers eux. Le médiateur a représenté le peuple auprès de Dieu. Et maintenant, il va représenter Dieu auprès du peuple. Il descend et il prend avec lui la loi que Dieu a lui-même gravée sur deux tables de pierre. Et il descend avec Josué. Ils entendent les cris. Ils voient les danses. Et Moïse voit. Moïse voit le péché comme Dieu l'a vu. Et sa colère est à l'image de la colère de Dieu. Dieu s'est enflammé de colère et Moïse s'enflamme de colère. Il voit le péché de la même façon que Dieu et il réagit de la même façon que Dieu. Il brise les tables de la loi. Et ce n'est pas un accès de folie, hein, parce que ce n'est pas lui qui a brisé la loi. En fait, c'est le peuple qui a brisé cette alliance. C'est le peuple qui a brisé la loi. Il a au minimum brisé les deux premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ce qui est en bas sur la terre et ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Il y a quelque chose qui n'était pas clair dans ce que Dieu avait dit. Le peuple a brisé sciemment, consciemment, la loi. Et Moïse la jette à terre. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous avez fait. Votre idolâtrie, voilà ce que c'est. Symboliquement, en brisant ces tables, Moïse disait au peuple, vous avez violé toute la loi. Moïse détruit alors le veau d'or et il va jusqu'à le réduire en poussière. Il le fait ingérer au peuple en le répandant dans leurs sources d'eau. Il ne laisse aucune trace de l'idolâtrie qui les avait détournés de Dieu. Et puis il se tourne vers Aaron et il le questionne. Dis-moi Aaron, qu'est-ce que ce peuple a bien pu faire pour que tu te rendes coupable d'un si grand péché? Dis-moi, ils t'ont menacé, ils ont menacé ta famille, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire pour que tu fasses ça? Et là où la repentance aurait été pour Aaron de dire, ben, peu importe. En fait, peu importe ce qu'ils ont fait. C'était moi qui étais responsable ici. C'est de mes mains que ce veau est sorti. C'est moi qui les ai conduits à se détourner de Dieu. Pardon pour mes péchés. Ah non, c'est pas ça qu'il dit, regardez. Il dit trois choses, lui aussi. Il dit quelque chose de vrai, mais qu'il utilise pour se justifier. Moïse, ne te mets pas en colère. Tu sais que ce peuple désobéit facilement, qu'il est enclin au mal. Ouais, c'est juste. Dieu a dit la même chose sur la montagne. Hein. Dieu a fait le même constat. C'est juste. Le truc, c'est que lui, il l'utilise pour se séparer du peuple. Il n'est plus le représentant du peuple, là. En fait, nous ne sommes pas si loin d'Adam. C'est la femme que toi, tu m'as donnée. Il dit quelque chose d'à moitié faux. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. C'est vrai. C'est vrai que le peuple a dit ça. Mais un, c'était sans doute faux. Le peuple savait où était Moïse. Mais en tout cas, lui savait très bien où était Moïse. Même s'il ne savait peut-être pas quand il allait redescendre. Mais il se sert de cela pour reprocher à Moïse de l'avoir laissé gérer tout seul. Et encore une fois, il déplace la faute. C'était la faute du peuple et maintenant c'est la faute de Moïse. Et puis il dit une troisième chose, un mensonge inventé à la va-vite. Je leur ai dit que ceux qui ont des objets d'or les enlèvent, ils me les ont donnés. Je les ai jetés au feu et il en est sorti ce taurillon. Ah ouais, quand même. Ouais, sauf qu'au début du chapitre, Dieu dit pas la même chose. Dieu dit, t'as fait un moule, et le moule ça s'est pas fait en 3 minutes, et tu as fait couler l'or dedans. Dieu dit, moi j'ai rien fait, hein. J'ai pas fait exprès. En fait, on pourrait résumer son attitude assez simplement. Le refus de repentance, c'est le fait de ne pas vouloir dire la même chose que Dieu sur son péché. Le refus de la repentance, c'est le fait de ne pas faire le même constat que Dieu sur son péché. La vision de Dieu et d'Aaron sont tellement différentes. Celle de Dieu met l'accent sur le rôle d'Aaron dans la désobéissance, tandis que celle d'Aaron minimise son rôle et sa responsabilité et charge le peuple, et charge Moïse, et charge le hasard, le je sais pas. L'auto-justification, la minimalisation du mal, je ne sais pas, un truc comme ça, le fait de rendre le mal moins grave que ce qu'il est, le refus de la responsabilité sont trois marques du refus de la repentance. Mais même, admettons que ce soit vrai, d'accord ? Que tout ce qu'il a dit soit vrai. C'est un peu de la faute du peuple, c'est un peu de la faute d'Aaron, et puis il ne sait pas trop comment ça s'est passé. Je voudrais vous dire, le péché des uns n'est jamais une excuse pour le péché des autres. Le péché des autres n'est jamais une excuse pour mon péché. La mauvaise vie des uns n'est pas une excuse à la médisance. Le fait d'être blessé par quelqu'un n'est pas une excuse pour ne pas l'aimer, etc., etc. Le péché des autres n'est jamais une excuse à mon péché. Nous sommes tout le temps responsables de nos propres fautes. Ce n'est pas vous qui commettez mes péchés, c'est moi qui les commets. Mais ce texte est aussi un avertissement, et un avertissement sévère, et notamment pour les responsables d'église, les anciens. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Il n'y en a pas un qui se lève pour reprendre Aaron et lui dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Un des rôles des anciens est de surveiller le troupeau. Ils le font en enseignant la parole de Dieu et c'est ce qu'aurait dû faire Aaron. Il aurait dû leur rappeler ce que Dieu avait dit. « Tu ne feras pas d'idole, tu n'auras pas d'autre Dieu. » Ça ne joue pas ce que vous faites. Il aurait dû rappeler au peuple les 2 premiers commandements. Il aurait dû rappeler au peuple les conséquences du péché. Ils le font aussi en étant des modèles dans leur conduite, dans leur foi. Ils le font en exerçant la discipline d'Église, en dénonçant le péché, en appelant le pécheur à faire le même constat que Dieu sur son péché pour s'en repentir. La discipline d'Église vise trois buts. La restauration du pécheur qui se repent, la protection de l'Église par l'exclusion de celui qui refuse de se repentir ou de celui qui enseigne une fausse doctrine, la préservation de l'honneur de Dieu en préservant le bon témoignage de l'Église. Mais rien de tout ça n'est là. Le texte nous rappelle que nous sommes responsables de notre propre péché, ce texte nous rappelle aussi que le péché n'est jamais individuel. Notre péché a des conséquences sur ceux qui nous entourent. Je ne peux pas pécher tout seul et en supporter tout seul les conséquences. Mon péché a des conséquences sur ceux qui m'entourent. Regardez, Moïse en souligne 2 au verset 25. À cause du péché d'Aaron, le peuple est incontrôlable. Il n'a plus de direction. Le péché, et notamment celui d'un responsable, entraîne le désordre dans tout le peuple. Un ancien, un responsable d'activité, un diacre médisant est un désastre pour toute l'Église. Parce que par son péché, il enseigne l'Église à pécher. Il lui désapprend à faire la distinction entre le bien et le mal. Il sème la zizanie dans l'Église. La deuxième chose, deuxième conséquence, c'est que le monde est perdu. Quand l'Église ne marque plus sa différence avec le monde, c'est le monde qui est perdu. Elle n'est plus un témoignage efficace de l'Évangile, mais au contraire, elle témoigne de l'inefficacité de l'Évangile. Elle dit au monde, l'Évangile que nous prêchons est faux. Il ne transforme pas les cœurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une discipline dans l'Église. Et le texte nous dit qu'il y a un choix à faire, un choix que nous devons tous constamment faire, jour après jour. Qui est pour le Seigneur ? Ce matin, qui est pour le Seigneur ? L'appel est à nous séparer de notre péché, de notre idolâtrie, de mettre ou de remettre Dieu au centre de nos vies. Quelles sont mes idoles ? Quelle est la chose sans laquelle ma vie n'a plus de sens ? Voici notre idole. Sommes-nous prêts à être du côté du Seigneur ? David Paulison dit ceci, et je trouve que c'est très à propos dans ce texte. Nous examiner nous-mêmes est une voie à la fois brutale et merveilleuse, laborieuse et agréable. Elle a parfois le goût de la mort, mais elle mène toujours à la vie. Les solutions de rechange ont parfois le goût de la vie, mais elles mènent toujours à la mort. Nous examiner nous-mêmes est une voie à la fois brutale et merveilleuse, laborieuse et agréable. Elle a parfois le goût de la mort, mais elle mène toujours à la vie. Les solutions de rechange, l'idolâtrie, ont parfois le goût de la vie, mais elles mènent toujours à la mort. Lorsque Moïse pose la question à ce peuple, ils ne savent pas ce qu'il va leur demander. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il va leur demander. Les fils de Lévi, la tribu de Moïse, viennent à lui. Et voilà sa demande. Et c'est choquant. Choquant. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp, d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. Ce qui était juste, c'était que tous meurent. Ce qui était juste, c'était que Dieu applique la sentence qui était attachée à la loi, que celui qui désobéit à un commandement meurt. La Bible nous rappelle que chaque homme, chaque femme, dans chaque génération a péché. J'ai péché. Vous avez péché. J'ai brisé les tables de la loi. Vous avez brisé les tables de la loi. Mais dans sa miséricorde, Dieu entend son médiateur. Il n'applique pas la sanction que chacun aurait méritée. Mais par cette action, il nous rappelle l'importance du combat pour la sainteté. Sommes-nous du côté du Seigneur? Les Lévites, suite à cette action, sont investis dans leur fonction, dans le tabernacle. Dieu rappelle là l'importance de la sainteté de ceux qui veulent le servir. Peut-être que ce matin, en regardant vos cœurs, vous entendez aussi cette voix. Parle-nous par ta parole quand nous lisons notre Bible jour après jour. Et que cette parole conforte notre foi, qu'elle nous rassure, qu'elle nous montre que nous sommes en sécurité grâce à toi, qu'elle nous montre que nous avons de la valeur grâce à toi, grâce à ton sacrifice, parce que tu as payé un prix si immense pour nous racheter. Qu'elle nous dise que notre joie la plus intense, c'est celle que nous trouvons en toi. Tu ne veux pas faire de nous des gens malheureux, tu veux faire de nous des enfants bienheureux. Donne-nous de trouver toute notre joie en toi, de nous faire confiance aujourd'hui comme nous te faisons confiance pour demain. Au nom de Jésus-Christ, Amen.